Thomas, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, merci de me recevoir.
Voilà Thomas, on vous retrouve pour faire un point d'actualité avec l'AED, avec l'aide à l'Église en détresse. Alors je ne sais pas par quel sujet vous souhaitez commencer, Thomas Oswald.
Bon, je vais commencer par l'actualité chaude. En l'occurrence, pour nous, c'est surtout au Sahel que ça se passe. Il y a eu encore des séries d'attaques qui frappent le Burkina Faso et le Niger, tout particulièrement le Niger. Bon. À vrai dire, ça touche plusieurs pays, mais c'est la même région. C'est ce qu'on appelle la région des trois frontières. Et là, les dernières attaques ont eu lieu entre Burkina Faso et Niger. À chaque fois, c'est des groupes djihadistes dont l'origine est difficile à déterminer. On ne sait pas forcément si ce sont des groupes Peul ou si c'est des groupes qui ont vraiment des revendications djihadistes ou nationalistes, comme c'est le cas des Peul. Mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont là pour à chaque fois semer la terreur. Et ils s'attaquent spécifiquement aux régions où les chrétiens et les musulmans vivaient en bonne intelligence. Donc, comme je le dis souvent, hein, l'objectif des djihadistes dans ces régions-là, c'est de briser les lieux où il y a une entente entre les religions et de faire en sorte qu'il y ait des frictions interethniques, interreligieuses, qu'il y ait le plus possible un chaos qui s'installe et que les États qui sont installés dans ces endroits-là voient leur légitimité menacée. Donc ça, c'est un souci constant qu'on a à l'aide à l'Église en détresse. On en parle beaucoup parce qu'à vrai dire, il y a un vrai manque dans les médias mainstream sur cette question-là. On entend très peu parler de ces conflits, alors qu'en termes de nombre de victimes, de nombre de personnes impactées, c'est absolument gigantesque. La dernière attaque qui a eu lieu, c'était au Niger. C'est une attaque qui a causé 136 morts, donc c'est vraiment énorme. Et ça encore, ce n'est que la partie visible, hein, de l'iceberg. Pour la plus grande partie des habitants de ces régions-là, l'impact très visible qu'ils voient sur leur vie quotidienne, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir une vie économique normale, ils ne peuvent pas travailler correctement, ils ne peuvent pas vendre leurs marchandises, alors que c'est absolument vital pour tous les paysans pauvres qui vivent dans ces régions-là en particulier. Et il y en a beaucoup qui sont du coup amenés à fuir sur les routes. Et dans cette région du Sahel, donc l'Organisation des Nations Unies estime qu'il y a 2 millions de réfugiés, donc même probablement plus que ça, mais au moins 2 millions qui vivent dans les conditions que vous imaginez, dans des camps de réfugiés. Quelquefois, ils doivent fuir dans un pays voisin qui lui-même a des problèmes avec ces attaques djihadistes et leur avenir est très compromis. Donc j'appelle tous vos auditeurs à une union de prière pour ces personnes-là qui vivent dans ces conditions-là.
Voilà, c'est une situation qui dure déjà depuis un certain temps et qui semble toujours continuer, se répandre même, hein.
C'est ça. Alors le grand problème, c'est que des situations de ce type, on en a connu au nord du Mali, quand les Touaregs ont tenté de prendre Ouagadougou, Bamako, pardon. Ouagadougou. On en a connu lors de la grande expansion de Boko Haram au nord du Nigeria en 2016, où ils avaient pratiquement 30 000 combattants d'après les estimations. Mais ces expansions-là ont fini par être achevées. Hein, au Nigeria, l'armée nigérienne a pris le dessus, bon, avec le soutien de beaucoup d'autres. Au Mali, c'est l'armée française qui a sauvé le Mali. Mais à chaque fois, on a le sentiment que ces victoires sont des victoires ponctuelles et qu'on ne parvient pas à résoudre le problème. Alors au sein de l'aide à l'Église en détresse, on est justement en train de préparer un grand rapport sur la liberté religieuse qui fera une part toute particulière à cette question du Sahel. Et dans ce rapport-là, on examinera pays par pays quelle est la situation, à quoi les chrétiens qui vivent là-bas, et puis les musulmans aussi, hein, parce que les musulmans font partie des victimes aussi, hein, dans leur immense majorité, à quoi est-ce qu'ils sont confrontés et quelles solutions éventuellement espérer en dehors de la solution dont je vous parle régulièrement, c'est-à-dire d'être en union de prière avec eux. Très concrètement, qu'est-ce qui pourrait être une solution pour le Sahel? La clé, ce serait évidemment la légitimité des États qui sont constamment battus en brèche. Et ils sont battus en brèche pas que pour des mauvaises raisons, il y a aussi parce que dans beaucoup de cas, ce sont des États qui sont très corrompus. Donc ça, c'est le rapport dont je vous parle va être publié d'ici quelques jours. Et on fera une grande conférence de presse à ce sujet-là, où on vous présentera pays par pays quelle est la situation des minorités religieuses.
tout l'intérêt aussi d'aller effectivement consulter notamment le site de l'AED pour avoir des informations. Vous le disiez tout à l'heure en commençant, Thomas, on se demande parfois de quoi on nous parle dans les médias parce qu'il se passe quand même des choses parfois très dramatiques dans le monde et on n'en parle pas beaucoup. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Il y a des endroits, en particulier l'Afrique, c'est tout à fait frappant. Il peut se passer des choses absolument dramatiques en Afrique et il y a très très peu de choses qui remontent jusqu'aux médias grand public.
Oui.
On essaie, hein, nous, de pousser avec nos modestes moyens ces sujets-là au sein de l'aide à l'Église en détresse. Et là, j'ai sous les yeux le tout dernier magazine, donc l'Église dans le monde, qui vient de sortir, là, tout neuf, qui vient d'arriver par la poste de nos abonnés. On traite, effectivement, comme d'habitude, il y a un grand carnet des continents qui est consacré au pays dans lequel l'aide à l'Église en détresse des missions. Donc, en Afrique en particulier, on parle du Centrafrique, de la Tunisie aussi. Tunisie, c'est pour d'autres questions, c'est parce que il y a 10 ans, c'était la révolution de Jasmin, et on fait un état des lieux, savoir qu'est-ce qui reste de ce printemps arabe, qui était pressenti comme le début d'une démocratie en Afrique du Nord, et puis on a vu les flux que ça a donné, qui ne sont pas tous bons, malheureusement. Au-delà de ces questions-là, on invite aussi nos lecteurs à regarder l'actualité avec un œil assez critique et avoir une vision géopolitique des événements. Et c'est la raison pour laquelle on revient sur le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, avec un professeur qui est aussi un diacre de l'Église arménienne qui s'appelle Philippe Sukiasian. Donc ce Philippe Sukiasian, il note quelque chose qui n'a pas été relevé à l'époque de la guerre, que nous-mêmes d'ailleurs qui suivons le sujet n'avons pas relevé, c'est que en 2021, on fête le centenaire de 1921, des accords du traité de Moscou. Et le 16 mars 1921 était donné à l'Azerbaïdjan, qui venait d'être créé, les régions qui ont été contestées et qui étaient au cœur du conflit tout récent qu'il y a eu entre l'Azerbaïdjan et les défenseurs du Haut-Karabakh, qui étaient soutenus par l'Arménie. Or, ce que relève ce monsieur, et très intéressant, c'est que la remise de ces régions-là ne valait que pour un siècle. Donc, autrement dit, le fait que le conflit ait eu lieu juste avant 2021 est certainement pas anodin. Il y a d'autres raisons, évidemment. Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, avait besoin d'une victoire militaire. Il était soutenu complètement par Recep Tayyip Erdogan, le président de la République de Turquie. Mais d'un point de vue historique, c'est quand même tout à fait intéressant de noter qu'il y avait une échéance pour les Azéris, les habitants de l'Azerbaïdjan, et qu'ils avaient besoin de confirmer leur légitimité sur ces régions-là et poser la patte dessus, quoi, pour parler vulgairement, dire « cette région est à nous ». Certes, elle est occupée par les Arméniens depuis la fin du XXe siècle et les victoires de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan, mais elle nous a été donnée. Et avant que l'échéance de 2021 arrive, eh ben on remet nos armées dessus de façon à ce qu'on ne puisse plus nous contester la légitimité sur cette région-là. Et effectivement, c'est une clé de compréhension qui est probablement intéressante et qui rappelle, une fois encore, que Recep Tayyip Erdogan a un agenda très précis dans ces régions-là, qui, pour des raisons de prestige, mais aussi pour des raisons économiques, il a envie d'établir une grande zone d'influence pan-turque, donc de peuple de langue turkmène, ou proche du turc, quoi, autrement dit, et de religion musulmane, même si ce n'est pas forcément la même religion musulmane que la Turquie. Et ça, c'est effectivement un vieux rêve ottoman que Recep Tayyip Erdogan reprend à son compte, et qui, à défaut d'avoir beaucoup de réalité sur le terrain, lui a donné une énorme aura auprès de sa population et auprès de l'Azerbaïdjan. La population azérie a brandi des drapeaux turcs tout le long du conflit et continue à en brandir. Il y a un grand mouvement populaire en faveur de la Turquie grâce à cette victoire qui venait effacer les défaites humiliantes du passé.
Voilà, le rêve de la grande Turquie, puis qui permet peut-être aussi à Erdogan de se maintenir au pouvoir. Hein.
Ah oui, tout à fait. Erdogan se maintient au pouvoir parce qu'il a eu un bilan très bon au début des années 2000 grâce à l'essor économique de la Turquie. Là, les choses sont beaucoup plus compliquées. La livre turque est dans un état catastrophique et économiquement, le pays risque d'avoir de gros soucis lui aussi. Mais le bilan international de Recep Tayyip Erdogan fait qu'il conserve un très bon soutien de la majorité de la population turque parce qu'il est très martial, très, on pourrait même dire brutal hein, dans beaucoup de cas, à l'international parce qu'il s'implique en Syrie, il s'implique en Afrique, évidemment en Libye, mais aussi en Somalie où la marine turque met la main sur des bases maritimes qui vont lui permettre d'avoir accès après à toute la zone d'influence de l'océan Indien et même de l'océan Pacifique qui sont les nouvelles zones d'où la richesse émerge. Donc il y a vraiment un plan international conçu par Recep Tayyip Erdogan et ça les Turcs sont très fiers de ça. Ils ont le sentiment effectivement d'un empire ottoman qui renaît et qui reprend des forces. Et évidemment c'est des choses à contrebalancer quoi. Il n'est pas aussi fort qu'il voudrait le montrer. Notamment, je vous parlais du pan-turquisme tout à l'heure, où idéalement on pourrait imaginer une zone d'influence turque qui irait des Balkans jusqu'au Xinjiang, donc jusqu'aux Ouïghours chinois. Dans la réalité, tous ces peuples-là turkmènes sont assez éloignés quand même des habitants actuels de la Turquie. D'abord, ils ne parlent pas le même turc, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Leur langue véhiculaire, donc la langue qu'ils parlent entre eux, c'est plutôt le russe, et voire l'anglais. Donc c'est pas forcément, il y a pas forcément de réalité derrière le rêve que nous vend Recep Tayyip Erdogan, autrement dit. Il faut pas exagérer son pouvoir. Il le fait volontiers, nous de notre côté ne le faisons pas. Cette mise en garde m'a été faite par Tancred Josserand, qui est un grand spécialiste de la Turquie, qui écrit dans la revue Conflit. Il avait ces mots-là, il me disait, évidemment, Recep Tayyip Erdogan a cet agenda, c'est quelque chose qui est très respecté par les Turcs, mais il ne faut pas exagérer sa puissance, il ne faut pas imaginer que demain il va pouvoir établir une grande zone d'influence turque à l'Est. En particulier pour revenir sur la guerre Azerbaïdjan-Arménie, pour boucler la boucle, les troupes de l'Azerbaïdjan soutenues par la Turquie n'ont pas repris tout le Haut-Karabakh. Bon, là, ils n'en ont pris qu'un tiers, à vrai dire. Et ils ont repris, en revanche, toutes les zones qui faisaient partie de l'Azerbaïdjan et qui étaient conquises par l'Arménie. Ils sont établi un corridor qui leur permet effectivement de communiquer avec l'exclave de l'Azerbaïdjan qui est directement en contact avec la Turquie, mais ils n'ont pas chassé tous les Arméniens du Haut-Karabakh. Et l'arbitre qui a mis fin au conflit, ça reste la Russie, et il ne faut pas sous-estimer la puissance, évidemment, de la Russie dans le Caucase, et tout particulièrement dans cette région. La guerre du Haut-Karabakh a été une très très mauvaise affaire pour les Arméniens, ça a été une bonne affaire pour l'Azerbaïdjan, mais ça a été aussi une très bonne affaire pour la Russie qui remet des troupes dans la région et qui s'est posée en arbitre.
Oui, et c'est une influence russe qui a toujours été là, d'ailleurs, hein, dans cette partie du Caucase, mais peut-être aussi plus généralement dans une partie de l'Asie centrale, une bonne partie. Hein.
Oui, tout à fait.
Les Russes ont toujours leur mot à dire, quand même.
Les Russes ont toujours leur mot à dire. Ils ont toujours eu comme volonté d'avoir des accès vers ce qu'ils appellent les mers chaudes, c'est-à-dire les mers où les navires peuvent naviguer même en hiver parce qu'elles ne sont pas prises par les glaces. Et donc ils ont eu tendance historiquement à pousser au sud. Et puis dans le cas de l'Arménie, les Arméniens étaient plutôt contents que les Russes interviennent. Donc ils sont très dépendants, à vrai dire, de leur allié russe. Hein. Et c'est d'ailleurs une des clés du problème actuel qu'ont les Arméniens, c'est que en dehors de la Russie, ils ont peu d'alliés et l'Occident, qui est considéré comme un allié, s'est montré absolument incapable de leur venir en aide lors de la guerre des 40 jours qui leur a été livrée par l'Azerbaïdjan avec le soutien massif de la Turquie. Je voulais revenir peut-être humainement et personnellement sur le cas de la Centrafrique où nous avons fait un article un peu poussé dessus avec le père Federico Otero, qui est un correspondant qui travaille avec nous assez régulièrement, qui vit au Carmel depuis... au Carmel, oui, il vit au Carmel, mais au Centrafrique, plus spécifiquement depuis des dizaines d'années, et qui nous fait un point de vue de ce pays qui est partagé par des conflits sans fin entre ethnies, avec un État qui est défaillant au dernier degré, qui possède, à vrai dire, qui n'administre qu'une toute petite partie du territoire couvert officiellement par la Centrafrique. Et c'était assez beau parce que dans son témoignage, Il nous a beaucoup parlé des séminaristes qui étaient sur le point d'être ordonnés prêtres. Il nous a beaucoup parlé de la population et de sa grande ferveur religieuse. Mais finalement, il nous a assez peu parlé des conflits parce qu'il nous disait, on les a toujours connus en Centrafrique, donc ils passent quelque part un peu au second plan. Le plus important, c'est que la population centrafricaine, les paroissiens, ceux avec qui nous travaillons, conservent une foi à déplacer les montagnes. Et par exemple, lors d'une attaque pas très loin du Carmel, la première préoccupation de ces séminaristes, c'était ça, a été de dire, mais est-ce qu'on va pouvoir être ordonné prêtre ou est-ce qu'il va falloir repousser? Ils ne voulaient surtout pas repousser. Et finalement, l'ordination a bien eu lieu, pas à l'endroit prévu, mais elle a bien eu lieu. Et c'était un très beau témoignage de foi, je trouve, que le sien, qui nous montrait à quel point ces gens qui sont dans la tempête en permanence ne perdent pas de vue ce qui est le plus important à leurs yeux, c'est-à-dire leur engagement. Et donc il a pu effectivement ordonner, participer à l'ordination de ces prêtres à Bangui, donc à la capitale de la Centrafrique. Voilà, c'était mon dernier témoignage pour cette édition-là.
Eh bien, en tout cas, Thomas Oswald, merci beaucoup. Merci à nouveau pour ce point d'actualité avec vous et avec l'AED. Merci infiniment. Et on peut renvoyer effectivement encore une fois ceux qui nous écoutent au site internet hein, aed-du6france.org. Il y a tous les articles, toutes les actualités voilà, qu'on peut retrouver.
C'est ça. Et le magazine donc, qui paraît tous les deux mois qui s'appelle L'Église dans le monde.
Et L'Église dans le monde.
Je vous parlais un instant.
Ouais, merci beaucoup, Thomas. Et donc, on se retrouve le mois prochain.
Eh bien, avec grand plaisir et bonne continuation à Radio Maria, alors.
Merci. Au revoir, Thomas.